Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission animée par Jean-Robert Pitt, géographe et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous allez découvrir que la géographie ne s'intéresse pas seulement aux paysages, aux montagnes, aux campagnes, mais aussi aux villes. Car la ville, c'est le sujet que vous avez choisi, Jean-Robert Pitt. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais essayer aujourd'hui de montrer que les villes qui font parfois un peu peur, qui ont parfois mauvaise réputation dans notre monde très attaché à la préservation de l'environnement, à la nature, que les villes, en fait, sont des espaces essentiels pour l'humanité et pas nécessairement des espaces négatifs. Ce sont des espaces où il fait bon vivre.
Dans la planète Terre, il y a 6 milliards d'habitants actuellement. Combien en ville, combien en campagne? Quelle proportion?
Oh, on peut dire, en gros, c'est un peu difficile parce qu'il y a des pays dans lesquels les recensements ne sont pas très fiables. Mais enfin, on peut dire que la moitié de la population aujourd'hui habite en ville, c'est-à-dire 3 milliards, plus de 3 milliards d'hommes,
oui,
dans des lieux quand même où se posent beaucoup de problèmes. C'est pas facile de vivre en ville et de concentrer tant d'habitants dans les mêmes lieux. Mais voilà, c'est un phénomène qui a commencé il y a bien, bien longtemps, mais qui s'est accéléré au XXe siècle, dès la révolution industrielle d'abord, et puis ensuite qui s'est accéléré au XXe siècle, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, où on a vu des pays pauvres gagner par une urbanisation galopante, sans doute exagérée et ne correspondant pas aux besoins réels, en particulier en matière alimentaire, parce que les campagnes vides posent beaucoup de problèmes en Afrique ou en Amérique latine, mais qui correspondent à d'autres besoins, parce que si ça s'est produit, c'est qu'il y a des raisons à cela. Alors on peut peut-être essayer de voir si vous...
De regarder, oui, d'abord, quelles sont les très très grandes villes dans le monde. Je crois qu'on les connaît un peu comme ça, mais il y a peut-être des surprises.
Oui, il y a des surprises, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache qu'il y a 30 millions d'habitants à Tokyo, et qu'en réalité, quand on quitte Tokyo en Shinkansen, c'est le train rapide japonais que l'on va vers Kyushu, donc en longeant la côte du Pacifique, eh bien le Japon est peuplé de 120 millions d'habitants. Donc entre Tokyo et Kita-Kyushu, ça fait un petit millier de kilomètres, il y a 60 millions d'habitants, c'est-à-dire la moitié de la population du Japon. Et ce qui est très étonnant dans ce voyage, c'est qu'on ne voit pratiquement jamais la campagne. On est toujours en ville le long.
C'est une ville étalée.
C'est la même chose entre Boston et Washington, la mégalopolis américaine qui a été, on l'a appelé mégalopolis à cause de ça. Donc la ville géante, c'est aussi une cinquantaine de millions d'habitants, dont 25 autour de New York. Beaucoup de villes tournent autour de 15 millions d'habitants, comme Mexico, São Paulo, Osaka, Jakarta, Los Angeles, Bombay, Manille. Et puis il y a une dizaine de métropoles en plus qui sont autour de 10 millions d'habitants, parmi lesquels la nôtre, Paris. Et il faut quand même songer que jusqu'au milieu du 19e siècle, il y a deux villes qui avait atteint le million d'habitants dans l'histoire de l'humanité, c'est Rome, dans l'Antiquité, hein, qui a eu jusqu'à un million d'habitants, probablement dans sa phase de plus grande prospérité, et puis Edo, qui s'est appelé Tokyo après, qui était ville créée au début du XVIIe siècle au Japon et qui, au début du XIXe, avait un million d'habitants. C'était la plus grande ville du monde. On ne le sait pas toujours. C'est toujours aujourd'hui la plus grande ville du monde, mais multipliée par 30.
Alors pourquoi justement la ville a-t-elle un attrait tel qu'on voit bien qu'il y a une urbanisation incessante, en tout cas depuis le XIXe siècle, c'est le mouvement.
Alors, depuis le XIXe siècle, il y a évidemment le fait que les industries se sont installées préférentiellement en ville. Mais surtout les services. La ville est avant tout l'espace des services, parce que des industries, on peut en trouver aussi à la campagne. Il y a des régions comme l'Allemagne ou le Benelux ou le nord de l'Italie, ou même certains secteurs de Chine, par exemple, ou d'autres régions du globe, qui ont des industries en milieu rural. C'est très, très, très courant, ou quand on se promène du côté entre Vérone et Milan, dans le nord de l'Italie, dans ce vaste espace très, très industrialisé, et en même temps très rural, où il y a un mélange d'usines, de petites villes, de villages, de campagnes assez riches, avec des cultures maraîchères, avec des vignes. Bon, dans beaucoup de pays, les industries sont concentrées en ville. C'est le cas dans les pays pauvres, où il n'y a aucune industrie à la campagne. Mais c'est surtout les services. La ville est quand même avant tout l'espace des services, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, c'est le commerce, ce sont les banques, les services, les administrations, l'enseignement, en particulier l'enseignement supérieur, les théâtres, la culture. Tout cela est concentré en ville, très largement, à l'échelle mondiale, et depuis fort longtemps. L'histoire de la ville est liée à cela, à cette concentration des services.
Y a-t-il une différence d'évolution entre les pays riches et les pays pauvres?
Oui, alors essayons de voir un petit peu maintenant la vie des habitants, la vie des citadins, la vie des habitants des villes. Dans les pays riches, Il y a certes des pauvres qui habitent en ville, mais il y en a aussi à la campagne. Hein. Enfin, il y en a beaucoup en ville et il y a des quartiers très défavorisés dans toutes les villes du monde, y compris dans les villes françaises. Malheureusement, ces populations défavorisées sont souvent concentrées dans des quartiers construits après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a appelés les grands ensembles, qui ont été construits rapidement dans les années 60 et 70, voire 80, enfin surtout 60 et 70, pour faire face à la crise du logement, mais à une période où il y avait le plein emploi. Beaucoup de gens qui étaient des Français de souche ancienne qui sont venus habiter dans ces grands ensembles ont cherché à les quitter très très vite parce qu'ils n'y étaient pas heureux, parce qu'ils n'y étaient pas à l'aise. Et donc ils sont partis dans d'autres quartiers, ils ont construit des maisons individuelles souvent, tant qu'on était en période de plein emploi. Et sont venus se concentrer dans ces quartiers qui existaient malgré tout, qui avaient des logements à peu près salubres, même s'il y a des problèmes. En tout cas, il n'y avait plus de bidonville en France. En 1970, il n'y avait plus de bidonville. Et sont venus habiter dans ces quartiers des populations issues de l'immigration, souvent ayant des problèmes d'emploi, avec un taux de chômage très très élevé, des problèmes de scolarisation pour la jeunesse. Et donc, on peut le dire, et je le dis sans aucun mépris, bien au contraire, plutôt ce sont des problèmes poignants, mais qu'on ne peut pas nier, sont venus se concentrer dans ces quartiers, les populations à problème. Et c'est ce qui fait que ces quartiers aujourd'hui sont malheureusement encore moins attrayants qu'ils ne l'étaient quand ils ont été construits dans les années 60. Et là, c'est un vrai problème. Mais évidemment, les problèmes sont bien pires dans les métropoles de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Moi, je me refuse à utiliser cette expression parce qu'on l'utilisait à une époque où il y avait, rappelez-vous, c'est Sauvy qui avait créé cette expression. C'était le monde développé capitaliste, le monde développé socialiste et les autres, le tiers-monde, le troisième monde. Bon, aujourd'hui, cette distinction n'a plus de raison d'être. Donc moi, je préfère parler des pays pauvres. Ça a un sens très, très précis. Ça peut même se quantifier. Mais enfin, en tout cas, les pays pauvres. Les grandes métropoles des pays pauvres, qui sont souvent immenses. Hein, je pense à Mexico, à Rio, à Calcutta, à Manille, à Lagos, et à bien d'autres villes d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, ont des problèmes gigantesques. Parce qu'une très grande partie de leur population habite dans des conditions effroyables. Sur le plan matériel, sur le plan du logement, mais aussi sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la culture, de l'emploi, etc. Donc il y a là de vrais gros problèmes avec des villes qui sont de vastes bidonvilles. J'en connais une particulièrement bien pour avoir passé 2 ans de ma vie qui est Nouakchott en Mauritanie. Quand j'ai quitté Nouakchott en 1974, après y avoir passé 2 ans pour y enseigner, il y avait à peu près 80 000 ou 100 000 habitants à Nouakchott. Et déjà beaucoup de problèmes de bidonvilles et de sous-emploi. Mais 100 000 habitants, ce n'était pas gigantesque, en plein désert. Manque d'eau, etc. Aujourd'hui, il y a 1 million d'habitants. Et il n'y a toujours plus d'emplois, il y a toujours autant de problèmes. C'est le signe vraiment que certaines situations s'aggravent dans les pays qu'on appelle en voie de développement pudiquement, enfin dans les pays pauvres. Néanmoins,
oui. Pourquoi alors les gens vont-ils en ville? C'est la question qu'on a envie de poser, bien sûr. Pourquoi préfèrent-ils la ville très très dure, dans des conditions insalubres, que la campagne?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est que, en fait, même si c'est très dur de vivre en ville dans un pays pauvre, c'est quand même un petit peu moins dur que de vivre dans la campagne parce qu'il y a moins d'aléas. La campagne, aujourd'hui, telle qu'elle est conçue, gérée, aménagée, cultivée dans les pays pauvres, et je pense en particulier à l'Afrique, offre trop d'incertitudes aux populations. À l'occasion d'une mauvaise récolte, il y a risque de perdre ses enfants, il y a risque vraiment de mourir de faim. Il y a la pression sociale aussi, parfois la pression religieuse, la pression familiale qui existe à la campagne, l'impossibilité de voyager, de circuler le plus souvent, et il n'y a pas beaucoup plus d'emplois qu'en ville. Et en plus, beaucoup de gouvernements d'Afrique ou d'Amérique latine, on fait très peu d'efforts pour encourager l'agriculture vivrière. Je le regrette infiniment parce que je pense que le véritable développement passe par l'agriculture. C'est ce qui s'est produit en Europe avec la révolution agricole. C'est parce que l'État a encouragé au 18e, au 19e siècle, avant et après la Révolution française, la Révolution agricole qui a permis aux agriculteurs de mieux vivre, de mieux s'en sortir, de mieux nourrir leur famille et donc d'acquérir suffisamment de moyens. Dans certains cas, ça leur a permis d'ailleurs de partir et d'aller à la ville. Mais la révolution agricole a été très, très, très positive. Sans elle, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. L'Angleterre a commencé sa révolution agricole au 17e et a fait sa révolution industrielle fin 18e, début 19e. La France, du fait de la révolution française, a pris 50 ans de retard, mais a fait la même chose comme tous les pays européens. Un peu plus tard pour les pays méditerranéens, mais l'Afrique, on attend encore. Beaucoup de pays d'Amérique latine, on attend encore.
On ne voit pas de révolution agricole.
Pas de révolution agricole, mais je voudrais dire une chose quand même aussi maintenant, si vous me permettez, c'est que dans ces quartiers parlons des pays pauvres et des quartiers les plus défavorisés. On les voit sous un angle très négatif. Et évidemment, ce sont des zones de problèmes, d'insécurité, de danger. On ne peut pas se promener si on n'est pas originaire du quartier. Même si on est originaire, d'ailleurs, on ne peut pas se promener dans une favela de Rio tout seul. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable. Ou dans plein d'autres quartiers. À Lagos, il y a un taux de criminalité énorme. Ça, c'est la vérité. Néanmoins, dans beaucoup de ces quartiers qui nous apparaissent de manière très négative, il y a une vraie solidarité. Et c'est pourquoi aussi ça attire les pauvres. C'est que
il y a des moyens un peu de grappiller par-ci,
voilà.
Par-là.
On vit plus ou moins d'expédients, plus ou moins légaux, mais on arrive toujours à grappiller quelque chose, on arrive toujours à se nourrir, on arrive toujours à bénéficier de l'aide d'ONG, parfois de l'État, parfois de la municipalité, parfois de gens plus riches. On le sait très bien, en Afrique, quelqu'un qui a un salaire fait vivre 20 ou 25 personnes. Donc on arrive toujours... Parce qu'il y a une forte solidarité familiale aussi. L'Afrique est caractérisée par ça. C'est une des valeurs majeures de l'Afrique, c'est on n'oublie pas sa famille.
Bien sûr.
Famille au sens large, au sens élargi. Et quand on dit mon frère, c'est un frère, c'est un cousin. Parfois, ça n'est qu'un voisin. Mais c'est mon frère. Et en plus, parfois, l'islam aide aussi à mettre en œuvre cette solidarité parce qu'on doit aider les pauvres, et en particulier au moment du Ramadan. Donc la ville
offre tout de même
un certain nombre d'avantages et d'une certaine manière, plus de sécurité, plus de protection, curieusement, que les campagnes complètement isolées. Je pense à la santé, par exemple. Un des faits les plus intéressants, c'est que partout dans le monde, y compris dans les pays les plus pauvres, on vit plus vieux en ville qu'à la campagne. C'est quand même un signe qui ne trompe pas, y compris alors, dans nos pays riches où on critique beaucoup la pollution, l'entassement, etc., les difficultés, le stress urbain. Eh bien, il est très clair, quand on regarde les statistiques de démographie, que l'on vit plus vieux à la campagne. Paris est une ville où l'on vit beaucoup plus vieux que dans bien des régions de France, la Lozère, ou des régions beaucoup plus rurales.
Voilà. Donc, comment Jean-Robert Pitt redresse quelques idées toutes faites
pour nous faire prendre conscience de la réalité. Plus longtemps et avec plus de nuances.
Hein. Donc la ville, elle a beaucoup d'avantages, mais c'est surtout qu'elle offre, comme vous le dites, beaucoup d'attirance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, finalement.
Il faut dire ça aussi, c'est que la ville, c'est extraordinairement attrayant parce que c'est un pôle de créativité culturelle. En ville, il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie pas en ville. Pardon de vous donner une expérience personnelle. Moi, je suis né à Paris, en banlieue parisienne, et j'ai passé toute ma vie à Paris, mais avec des périodes à l'étranger ou des périodes de vacances plus ou moins longues, parfois à la campagne. Je me suis aperçu, mais j'ai mis du temps à m'en apercevoir, parce que j'étais très ébloui par la campagne et par les paysages ruraux, la nature, etc. Et je me suis aperçu que je m'ennuyais à la campagne.
Oui, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Parce que, alors que, en fait, j'habite au centre de Paris, où je pourrais profiter de tout, des musées, du théâtre, du cinéma, etc. Et en fait, je n'en profite pas tant que ça. Mes moyens ne me permettent pas de profiter de tous les commerces de luxe qui existent dans une ville comme Paris, ou des restaurants de luxe qui m'intéressent beaucoup. Néanmoins, le fait de savoir que ça existe, le fait de sortir de chez soi, aller dans la rue, et de voir une vie constamment renouvelée, constamment attrayante, est quelque chose de très précieux, dont moi, je n'arrive plus à me passer. Alors, je conçois que pour des gens qui ont toujours vécu à la campagne, ces propos soient très, très choquants. Mais quand même, il faut se rendre compte que la créativité artistique, elle vient essentiellement de la ville. Vous n'avez pas de grands peintres qui aient vécu toute leur vie à la campagne. Vous n'avez pas de grands écrivains qui aient vécu sans la ville. Des écrivains qui
ont vécu... À la campagne, il y en a quelques-uns.
Je pense à Giono ou à Marguerite Yourcenar, qui ont vécu d'une certaine manière loin du monde et du bruit, mais avec un éditeur parisien, avec des médias parisiens qui les aidaient un tout petit peu à vendre leurs livres et par conséquent à encourager leur inspiration. Je crois que l'homme a besoin de la ville. Ce n'est pas par hasard que dans l'Antiquité, les cités, qui étaient des espaces politiques indépendants, la kiwitas, avaient comme cœur une ville. Et quand on songe à l'importance de Rome dans tout l'imaginaire occidental et dans toute la vie politique et culturelle de l'Occident, tout au long de l'histoire, même jusqu'à maintenant, on est ébloui. Que serait l'Occident sans la ville de Rome? Que serait l'Occident, que serait l'Europe et la Méditerranée sans la ville de Jérusalem? N'oubliez pas aussi que l'islam a accordé une très très grande importance à la ville. Le mot Médina, qui est le nom d'une ville, qui est celle donc où le prophète est allé après la Mecque, est devenu le mot par excellence de ville, un peu comme on disait pour Rome, on disait l'Urbs, c'est-à-dire la ville par excellence, où on dit maintenant encore la ville éternelle. Dans beaucoup dans l'imaginaire, en tout cas occidental, la ville est vraiment le cœur de la civilisation. Et je crois qu'un certain nombre de pays qui n'avaient pas de tradition urbaine ont petit à petit acquis cette idée-là et aujourd'hui placent la ville au pinacle dans leur imaginaire. Il reste néanmoins à faire beaucoup d'efforts pour que les villes du monde entier soient aussi agréables que peuvent l'être certaines capitales de pays riches, comme Paris, par exemple.
Mais on voit que la ville aujourd'hui, c'est un très grand brassage humain, un grand brassage de diversité, de culture. Enfin, c'est aussi lié à la mondialisation, bien sûr. Que faut-il pour que le vivre ensemble en ville soit agréable ?
Précisément, comme vous dites, c'est un lieu de brassage entre ethnies, entre populations venues de partout, d'un pays et de l'étranger, où l'on est obligé d'apprendre à vivre ensemble. Si on n'apprend pas à vivre ensemble, eh bien, c'est la guerre civile. Donc les villes sont aussi et doivent être de plus en plus des laboratoires de cette nécessité. C'est pas une, bon, la volonté, elle est là parfois elle n'est pas là, mais c'est une nécessité d'apprendre à vivre ensemble dans la diversité. Et pour moi, les villes sont des laboratoires de cet apprentissage.
Merci Jean-Robert Pitt. On pourra retrouver sur le site de Canal Academy l'essentiel du texte que vous proposez pour réfléchir sur la ville comme espace d'urbanité. À bientôt et pour une autre chronique.
Merci beaucoup.